Chapitre 49. Après son expédition dans la balafre, Nietzsche se plongea dans l'étude des archives où l'attendait une montagne d'antiques ouvrages. Chardon essaya de se rendre utile de toutes les façons possibles. Sélectionnant des livres à l'instinct, elle se chargea aussi du ravitaillement, mais ça ne l'empêcha pas de s'ennuyer. Elle aurait voulu en faire plus, mais en matière d'érudition, ses compétences étaient limitées. Dans son village, quand elle aidait ses compagnons à survivre, elle se sentait importante, une bonne chasseuse de lézards, habile à trouver des points d'eau. Mais les livres, les langues mortes et les arcanes ne lui disaient décidément rien. Marcus et Luna lui ayant appris l'alphabet, elle parvenait à déchiffrer quelques mots. De sa propre initiative, elle mémorisa certains termes qui intéressaient Nietzsche. Vie, énergie, âne, diminution, épuisement, et passa devant les rayonnages en quête de titres les contenant. Dès qu'elle en trouvait un, elle s'emparait du volume et allait l'ajouter à la montagne qui se dressait devant son amie. La magicienne se fiait à l'instinct de sa disciple. Hélas, le mystère du buveur de vie restait entier. Indépendante depuis son plus jeune âge, Chardon était parfaitement capable de prendre soin d'elle-même. Nietzsche, elle ne le cachait pas, appréciait les gens responsables et autonomes. Résolue à prouver qu'elle pouvait être un membre précieux de l'équipe, Chardon se sentait pourtant inutile. Pour passer le temps, elle explora le complexe et les tunnels qui s'enfonçaient dans la mesa comme des trous de verre dans un arbre mort. Concentrés sur leurs recherches, les érudits ne lui accordaient aucune attention. Prudente, elle évitait Victoria, trop avide de l'enrôler dans son groupe de mémoristes. Un jour, par hasard, elle était tombée sur une séance d'apprentissage des acolytes. Devant des jeunes gens assis en tailleur à même la pierre, Victoria lisait un texte qu'il devait ensuite répéter à la virgule près. Ayant aperçu Chardon, la mémoriste en chef lui avait fait signe d'approcher, mais elle avait filé sans demander son reste. Victoria la mettait mal à l'aise, et l'idée de passer sa vie parmi des grimoires poussiéreux la révulsait. Son rêve, c'était de rester avec Nietzsche et de partager ses aventures. Dans un couloir, Chardon croisa Bannon, aussi désœuvré qu'elle.
« Je donnerais cher pour qu'on ait quelque chose à faire, » se lamenta-t-il.
Zébrant l'air, le jeune homme affrontait des ennemis imaginaires, sans pouvoir beaucoup bouger vu l'étroitesse des couloirs.
« Et si on sortait pour affronter le sorcier ?»
proposa Chardon.
« Tu n'es qu'une petite fille, » répondit Bannon.
« Et toi, un jeune garçon ?
Détrompe-toi, je suis un homme et un terrible escrimeur. »
Si tu savais combien de Selkas j'ai tué sur le randonneur des vagues.
Tu m'as vu combattre les panthères, non? Et les hommes poussières?
Accablé, Bannon posa la pointe de son épée sur le sol.
Toi et moi, nous ne représentons rien face aux buveurs de vie. Ça nous oblige à attendre que quelqu'un trouve un moyen de l'éliminer.
Attendre me rend folle,
grogna Chardon. Bannon se remit en mouvement, ferraillant contre des ombres. Mais quand il tomba sur les trois merveilleux acolytes de Victoria, il faillit s'en mêler les pinceaux. D'un seul regard amoureux, Audrey, Laurel et Sage auraient pu le forcer à la reddition.
Héberlué par ce spectacle, Chardon s'enfonça dans les tunnels jusqu'à l'ouverture qui donnait sur la balafre. Devant cette désolation, elle eut le cœur serré. Comme elle aurait voulu voir la vallée telle qu'elle était au temps de sa splendeur.
Je viens ici tous les jours, dit Simon dans le dos de la fillette. Chaque matin, je regarde s'étendre le domaine dévasté du buveur de vie. Si tu avais mon âge, tu saurais tout ce que nous avons perdu.
Chardon se retourna.
À quoi ressemblait la vallée?
Partout, il y avait des lacs et des cours d'eau. Sous un ciel bleu, pas gris comme à présent, les collines boisées étincelaient. Des routes reliaient les villes et les villages, et des champs ou des pâturages s'étendaient à perte de vue.
Simon siffla entre ses dents.
Parfois, j'ai le sentiment de me souvenir d'un rêve, mais c'était vrai et ça le redeviendra, j'en suis sûr. Bon sang, ça n'aurait jamais dû arriver. Un de nos érudits, dépassé par un sortilège. Aujourd'hui, la vallée est morte et les villes n'existent plus, y compris la mienne, et leurs habitants ne sont plus de ce monde. Tout ça, c'est notre faute. À nous de réparer les dégâts.
Je veux aider, dit Chardon. Je dois bien pouvoir faire quelque chose.
Simon eut un sourire paternel.
J'ai peur qu'il faille laisser les érudits s'en occuper.
Vexé, Chardon se détourna et marmonna qu'elle réussirait d'une façon ou d'une autre à sauver le monde. Longtemps après qu'elle fut partie, Le conservateur en chef resta en contemplation devant la balafre. Oubliant de dormir, Nietzsche dévora des volumes jusqu'à ce que ses yeux lui fassent mal, signe annonciateur d'une migraine. Bien qu'elle eût appris beaucoup de choses, y compris sur des sorts qu'elle avait utilisés par le passé, elle n'avait pas avancé d'un pouce. Écœurée, elle reposa un grimoire inutile. Mesurant mieux le danger que représentait le buveur de vie, elle n'avait plus aucun doute. Si elle ne l'arrêtait pas, le sort du monde était vraiment en jeu. En constante expansion, la balafre absorberait d'abord l'ancien monde, puis ce serait le tour de Dara. Désormais, la magicienne savait très bien pourquoi elle était là. Le jour, le soleil pénétrait à flots par les fenêtres, illuminant assez les salles de travail. Le soir, les lampes magiques prenaient le relais. Inlassable, Nietzsche consultait et écartait une bonne dizaine de volumes par nuit. Plongé dans ses propres recherches, Nathan lisait à une vitesse incroyable, et il était depuis toujours bien plus studieux que Nietzsche. En bonne femme d'action, elle se sentait plutôt taillée pour sauver le monde. Après tout ce qu'elle avait fait avec Richard, elle se savait capable de venir à bout du buveur de vie, et elle bouillait d'envie de l'affronter. Les yeux en feu et les épaules douloureuses, elle décida d'aller prendre un peu d'air. Une fois sortie du complexe, elle étudia le canyon, songeant aux gens qui l'avaient habité paisiblement pendant des millénaires. En milieu de matinée, le soleil n'était pas encore assez haut pour dissiper toutes les ombres au pied de la mesa. Près du cours d'eau central, non loin du verger d'amandiers, des moutons paissaient tranquillement. Inspirant à fond, Nietzsche se régala de l'air frais du matin. Une brise taquine faisait volter ses cheveux blonds qui, du coup, lui gratouillaient le nez.
« Venez prendre un bol d'air frais, magicienne !» lança Nathan dans son dos. « Quand on regarde de ce côté-ci, on oublierait presque la balafre et le buveur de vie. »«
Moi, je n'oublie rien. Et je dois imaginer un plan. J'ai trouvé plusieurs sorts qui pourraient convenir, mais ça ne colle pas. Ce matin, j'ai étudié un sortilège capable de tuer une nymphe succube au cas où il pourrait nous servir. »
Nathan se passa les doigts dans les cheveux.
« Quel rapport entre une nymphe succube et le buveur de vie ?»«
Les deux se nourrissent de la force vitale du monde. Une nymphe succube, c'est une voyante capable d'absorber l'énergie d'un être via le sexe. Les hommes ne peuvent pas lui résister. Les enivrant de plaisir, elle les vide peu à peu de toute vie. D'après ce qu'on dit, ces épaves meurent le sourire aux lèvres. »
Nathan eut un sourire gêné.
« J'imagine les dégâts si une femme de ta beauté avait ce genre de pouvoir. »
Nietzsche pointa le menton.
« J'en ai bien plus que ça. Tout est une affaire de contrôle, et sur ce plan, je ne crains personne. Le buveur de vie, lui, ne contrôle rien. Il absorbe la vitalité de ses victimes parce qu'il ne peut pas faire autrement. Dans ce contexte, il ressemble à une nymphe succube. »
« Fascinant. Et comment tuer une nymphe succube ? Que disait ton antique grimoire ?
C'est elle qui précipite sa fin. Chaque fois qu'elle couche avec un homme, et elle le fait sans cesse, elle court le risque, très minime, de tomber enceinte. Si ça arrive, elle est perdue. L'enfant, toujours une fille, se développe et grandit jusqu'à ce qu'elle ait absorbé la vie de sa mère, lui faisant subir ce qu'elle a infligé à des légions d'hommes. Au bout du compte, quand la génitrice n'est plus qu'une coquille vide, l'enfant la déchiquette de l'intérieur pour venir au monde et la remplacer.
« Cette méthode ne semble pas très pratique. Si nous devons tuer une nymphe succube, il n'y a pas d'autre façon ?»«
Selon la légende, le nouveau-né est très faible. Si on l'attaque comme il faut, on peut la tuer et mettre ainsi un terme à une lignée de nymphes succubes. »
Le front plissé, Nathan suivit des yeux un berger qui conduisait ses bêtes au pâturage.
« Une fable intéressante et stimulante, » marmonna-t-il. « Mais je ne vois pas à quoi elle peut nous servir. »
Nietzsche soupira d'accablement. Sortant du complexe, l'air plus déterminé que jamais, Victoria aperçut le sorcier et la magicienne et vint les rejoindre.
« Lors d'une réunion, mes mémoristes se sont souvenus d'un point important. »
Victoria riva les yeux sur Nathan. Depuis l'altercation avec Nietzsche, 2 jours plus tôt, elle lui battait froid.
« Comme nous nous souvenons chacun de livres différents, nous comparons régulièrement nos notes et nos analyses. »
Et quelque chose d'utile vous est revenu ? Demanda Nietzsche. Voilà qui nous changerait un peu.
Un éclair passa dans les yeux de Victoria.
De quoi s'agit-il ? Demanda Nathan, histoire de faire diversion.
Le sort original du buveur de vie ?
Non, c'est une histoire au sujet de la forêt primitive qui couvrait jadis l'ancien monde. Un univers sauvage en totale harmonie avec la nature. Le premier arbre, comme son nom l'indique, fut le premier à se dresser dans la première forêt. Ce gène géant était alors la plus puissante créature du monde, bref, et il s'agit d'une légende sur la création.
Nietzsche n'essaya pas de cacher sa déception.
Comment un mythe concernant un arbre nous aiderait-il contre le buveur de vie ? C'est une menace bien réelle, pas une antique fable.
Victoria s'assombrit encore.
Ça peut nous aider parce que toutes les ramifications de la vie sont liées. À l'époque où la forêt primitive le recouvrait, le monde plein de puissance contrôlait une fabuleuse magie.
Le jugeant plus réceptif, la mémoriste en chef raconta la suite à Nathan.
Bien avant les grandes guerres, des armées dévastaient l'ancien monde. Elles abattirent des arbres, détruisant les derniers vestiges de la forêt originelle. Ces soldats monstrueux coupèrent même le premier arbre, une tâche si compliquée qu'il fallut mobiliser 100 sorciers et 2 fois plus de travailleurs. Quand l'arbre s'est abattu, une composante vitale du monde est morte avec lui. Mais un gland fut sauvé, l'ultime semence du premier arbre. En détruisant les forêts, les armées renvoyèrent toute l'énergie vitale du monde vers le premier arbre. Au bout du compte, cette force fut condensée dans ce gland, le dernier vestige de la forêt primitive. Tu imagines, sorcier, une telle quantité d'énergie entreposée dans un réceptacle dont elle pourrait sortir un jour en une puissante explosion de vie.
Nathan inspira à fond le bon air frais des hauteurs.
Et tu penses que cette explosion serait suffisante pour tuer le buveur de vie ?
Il faut l'espérer, non ? Mais plus il deviendra fort et plus ce sera difficile. Bientôt, ça risque d'être trop tard. Pour l'instant, je pense que Roland, ou plutôt ce qui reste de lui, ne ferait pas le poids contre la dernière étincelle du premier arbre.
En quoi ça nous aide ?
Intervint Nietzsche.
Tu crois que ce gland existe vraiment ? Si oui, où le trouver ? J'ai lu beaucoup d'ouvrages sans repérer la moindre allusion à ton ultime semence.
Même chose pour moi, fit Nathan, et j'ai beaucoup lu.
Mais moi, je me souviens, insista Victoria. L'information figure dans un grimoire que j'ai mémorisé. Le gland a été mis en sécurité ici, dans un tunnel ou une grotte. Par là.
La mémoriste en chef désigna la tour à moitié fondue.
Ce trésor y est toujours.